Radio Okapi.
Présenté par Belinda Bosuma, voici le sommaire. Les Mbororo, appelés à rejoindre la localité de Nambia dans le Haut-Ouélé pour leur cantonnement et leur identification, ces éleveurs étrangers, dont certains détiennent des armes à feu, affluent en RDC depuis plus d'une décennie. Le commandant de la 3e zone de défense leur a lancé cet appel pendant sa récente mission dans le Haut-Ouélé. Fin de la grève des camionneurs opérant sur l'axe Matadi-Kinshasa. C'est après plus de 3 semaines de blocage, tensions et négociations avec le gouvernement congolais. Le trafic reprend donc après une perturbation dans l'approvisionnement de certaines denrées dans la capitale. Et puis, l'opération Ngemba ou Paix, en cours dans le Grand Bandundu pour traquer la milice Mobondo, totalise 3 ans depuis son lancement. Quel bilan établir à ce stade? Pour en parler, nous recevons le capitaine Anthony Mualushai, porte-parole de ces opérations. Madame, Messieurs, bonjour. Le commandant de la 3e zone de défense appelle les éleveurs Mbororo à rejoindre la localité de Nambia dans le territoire de Niangara en vue de leur cantonnement et identification. Le lieutenant général Pacifique Masunzu a lancé cet appel la semaine dernière lors de sa mission dans la province du Haut-Ouélé. Des précisions avec Jacques Moukonkole.
L'afflux des éleveurs Mbororo dans les Ouélé date depuis plus d'une décennie. Certains parmi eux détiennent illégalement des armes à feu, déclare le coordonnateur du service de communication de la 3e zone de défense. De ce fait, précise le major Nessor Mavudisa Kamba, ils menacent la paix des Congolais en vue d'obtenir des terres pour le pâturage de leur bétail. Ce comportement a toujours été décrié aussi bien par la population que par les autorités coutumières. Tenant compte de ce cri d'alarme, les autorités congolaises ont décidé leur cantonnement et leur recensement à Niangara. Objectif poursuivi, leur assurer la sécurité et permettre à l'État congolais de contrôler toute activité exercée sur son sol. À cet effet, le commandant de la 3e zone de défense a réuni les représentants des Mbororo et des FRDC le 12 juin dernier à Nambia pour sensibiliser ces transhumants Mbororo en vue de leur cantonnement. Le major Nestor Mavudisa prévient les récalcitrants.
L'autorité demande aux porteurs illégaux d'armes de guerre de les déposer volontairement auprès des services habilités, car après ces délais de sensibilisation, les forces armées de la République démocratique du Congo se verront obligées de désarmer leurs récalcitrants et éventuellement de les déférer devant des instances judiciaires.
Jacques Moukonkole, Kisangani, Radio Okapi.
Le commandant de la 3e zone de défense exhorte également la population de la province du Haut-Ouélé en général et celle du territoire de Niangara en particulier à collaborer avec les forces de défense et de sécurité pour la réussite de cette opération. Entre-temps, au Nord Kivu, nous apprenons l'arrestation du général autoproclamé Kasereka Kassiano alias Kabido, chef du groupe armé Front des Patriotes pour la paix armée du peuple, FPPAP. Il a été arrêté par les FARDC jeudi dernier à Butembo. Selon des sources administratives et de la société civile dans la région, cet ancien chef Mai Mai était resté très actif et redouté depuis plusieurs années dans les territoires de Lubero et de Beni. Il avait fait allégeance à la rébellion du M23 en mars 2025. Après son arrestation, indique des sources sur place qui citent le coordonnateur des volontaires pour la défense de la patrie, VDP, Wazalendo Front Nord. Kabido a été transféré à Beni avant d'être acheminé à Kinshasa. Aucune réaction de l'armée pour le moment. Je vous le disais en titre, les camionneurs opérant sur l'axe Matadi-Kinshasa lèvent leur mouvement de grève. C'est grâce à l'implication du gouvernement congolais après plus de 3 semaines de blocage, de tensions et de négociations laborieuses, indique un communiqué du ministère de l'économie nationale parvenu hier samedi à Radio Okapi. Le trafic a donc repris ce week-end entre les deux villes, marquant la fin d'une crise qui avait fortement perturbé l'approvisionnement de la capitale congolaise en denrées, note le communiqué. Grâce à Mzati, nous en dit plus.
Le ministère de l'économie affirme que l'intervention directe du gouvernement central a permis de débloquer les négociations entre les délégations syndicales des camionneurs et les autorités provinciales de Kinshasa. Les chauffeurs en grève dénonçaient l'insécurité persistante sur la route nationale numéro 1, les conditions de travail précaires, la multiplication des taxes ainsi que le non-respect des accords précédemment signés. Alors que les prix des produits de première nécessité récemment stabilisés menaçaient de flamber à nouveau, le gouvernement central est intervenu pour éviter une nouvelle crise économique et sociale, souligne la même source. Une délégation interministérielle a conduit les dernières négociations. Celles-ci ont abouti à un compromis salué par toutes les parties, marqué par la reprise immédiate des activités de transport et l'adoption des mesures claires et concertées. Parmi les dispositions de cet accord figurent, entre autres, l'autorisation pour tous les camions d'entrer dans la ville de Kinshasa entre 22h et 5h du matin, afin de fluidifier le trafic et minimiser les embouteillages. Les camions déjà entrés dans la capitale pourront circuler, livrer et sortir librement, dans le strict respect du code de la route, tout en évitant de stationner ou livrer sur la voie publique. La mise en place d'un dispositif spécial par l'exécutif provincial en collaboration avec la police pour garantir le respect des règles de circulation et la sécurité des usagers.
Du côté de l'Ituri, la société civile Force Vive de Mongwalou, entité minière située à 85 km au nord-ouest de Bunia, dans le territoire de Djougou, alerte sur l'état de délabrement inquiétant de trois ponts situés sur le tronçon routier entre Nizi et Mongwalou, long de 50 km. Dans sa communication hier samedi, cette structure citoyenne indique qu'il s'agit des ponts Sao, Bouanga et Likelike qui pourraient céder à tout moment si rien n'est fait. Elle ajoute que cette situation représente un danger permanent pour les véhicules qui empruntent cette route d'intérêt social et économique capital pour la région. Le président de la société civile Force Vive de Mongwalou affirme que plusieurs accidents sont déjà enregistrés sur ces ouvrages vétustes. Il sollicite l'intervention urgente des autorités. Chérubin Kokodilaou est joint par Martial Kizabiamongo.
Pour le pont Saou, c'est un pont qui avait été jeté sur la rivière du même nom. Et ce sont juste les troncs d'eucalyptus qu'on y avait jetés. On a essayé de mettre des traverses. On y a mis des traverses en voluge. Le pont est en état de délabrement vraiment avancé. Ce qui serait mieux, ce serait d'envisager dans les jours à venir la construction d'un pont qui peut répondre au moins aux normes avec des matériaux qui sont de la nouvelle technologie. Cela peut aider. Parfois, cela pose problème aux transporteurs parce qu'au niveau du pont, ça ou par exemple à Kakilo, plusieurs fois, il y a eu des cas d'accident au niveau de ce pont. Et même sur le pont Bouanga, il y a déjà des véhicules parfois, suite à la dégradation des platelages, du fait que c'est fait en bois aussi, les platelages sont faits à bois. Il y a des fois qu'il y a des véhicules qui s'embourbent sur le pont. Comme plaidoyer que nous pouvons lancer, c'est vraiment songer pour ce qui est du pont Bouanga par exemple, songer à y mettre des platelages à...
Pas de réaction pour le moment du côté des autorités compétentes. L'actualité, c'est aussi la DRC Mining Week qui s'est tenue du 11 au 13 juin 2025 à Lubumbashi. Les agences du système des Nations Unies basées à Lubumbashi y ont pris part. Outre les stands, elles ont fait également des communications touchant à plusieurs domaines, dont celui relatif au respect des droits de l'homme dans l'exploitation minière. Écoutez à ce sujet Oumar Samake, responsable du bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme. Il est joint par Jean Gandou.
L'un des acquis de ce forum, c'est que nous avons beaucoup mis l'accent sur la problématique des impacts environnementaux sur les communautés. Les impacts environnementaux liés à l'exploitation minière, en ce qui concerne la question de la santé, en ce qui concerne la question de l'éducation, en ce qui concerne la question de l'agriculture, les problématiques liées à la déforestation, nous avons mis l'accent sur ces problématiques qui sont la résultante, n'est-ce pas, de la nécessité pour les parties prenantes de faire des minerais critiques, le cobalt vert ou le cuivre vert, ce qu'on appelle l'exploitation verte. Ces questions ont trouvé des réponses simples dans les politiques de diligence raisonnable en matière des droits de l'homme. Nous avons aussi fait le plaidoyer avec le gouvernement, avec les entreprises minières, avec la société civile pour avoir une relation apaisée entre les communautés affectées par l'exploitation minière et les entreprises. C'est à ce seul prix que nous pourrions avoir ce qu'on peut appeler une exploitation verte. Ce travail-là a été fait par DCEDH plus les autres agences qui sont venues pour renforcer le leadership des Nations Unies dans ce secteur.
À quelques heures de la clôture de la session parlementaire de mars 2025, l'Assemblée nationale a procédé vendredi à l'examen des deux propositions de loi, notamment celle portant lutte contre la drépanocytose en République démocratique du Congo. Le député Antoine Tabala, son auteur, renseigne que la RDC est l'un des pays les plus touchés au monde par cette pathologie et occupe la deuxième place en Afrique après le Nigeria. Plus de détails avec Grace Amzati.
Pour cet élu de Tiangwa Kinshasa, il paraît plus urgent de combler le vide législatif constaté qui rend difficile la mise en place d'une prévention efficace et d'une prise en charge adéquate de la drépanocytose. Antoine Tabala.
La drépanocytose ou anémie SS est la première maladie génétique en République démocratique du Congo. Elle constitue un sérieux problème de santé publique, une menace pour l'unité et la stabilité de la famille, mais également une cause de vulnérabilité. Nous avons affaire non seulement à la maladie, mais également à ses conséquences.
Parmi les innovations apportées, son auteur souligne la mise en place d'un cadre institutionnel et financier adapté au financement public et privé pour la lutte contre la drépanocytose, ainsi que l'encouragement à la recherche scientifique sur le dépistage, ainsi que sur les traitements innovants et curatifs, mais aussi le renforcement de la prévention en rendant obligatoire et gratuit le dépistage prénuptial et néonatal, tout en intégrant les campagnes de sensibilisation sur la drépanocytose. La seconde proposition des lois examinée et déclarée recevable est celle modifiant et complétant la loi du 11 février 2014 relative à la conservation de la nature, portée et défendue par les députés nationaux Célestin Engele Mbabokoué.
Clôture hier samedi à Kinshasa d'un atelier de 5 jours consacré à l'élaboration du nouveau plan de communication stratégique du programme élargi de vaccination PEV en appui à la stratégie nationale de vaccination organisée du 9 au 14 juin. Cet atelier a réuni les cadres du ministère de la Santé publique, des partenaires techniques et financiers, ainsi que les responsables de communication des divisions provinciales de la santé de 8 provinces de la RDC, notamment le Haut-Katanga, la Tchopo, le Maniema, le Tanganyika et le Kasaï central. Objectif, construire un plan quinquennal visant à renforcer la mobilisation communautaire, la confiance du public et l'accès à la vaccination sur l'ensemble du territoire national. On écoute à ce sujet Dr Bienfait Kisamba, gestionnaire adjoint des projets en appui à la vaccination au sein de Sanru RDC. Il est au micro de Kelvin Baini.
Les 5 premiers jours, c'était consacré à l'élaboration d'un plan stratégique de communication qui accompagnera la stratégie nationale des vaccinations de la RDC. À ce jour, nous pouvons vraiment nous féliciter d'avoir déjà un document stratégique qui sera intégré à la stratégie nationale qui est en cours de finalisation. Et pour ce qui est du guide qui va accompagner les zones de santé dans l'élaboration de leur plan de communication centré sur l'humain, déjà à ce jour, nous avons déjà un guide finalisé qui nous avons travailler ensemble avec les collègues qui sont venus des provinces. Après cette étape, les experts du niveau national du PEV vont descendre dans les provinces pour accompagner les provinces et les zones de santé à maintenant élaborer le plan de communication qui nous aidera surtout à identifier et à récupérer les enfants zéro dose et sous-vaccinés. Comme c'était un plan de communication intégré, ça fera aussi allusion aux autres pratiques familiales essentielles.
Signalons que ce nouveau plan stratégique qui couvrira la période 2026-2030 vise à soutenir les efforts du gouvernement pour améliorer la couverture vaccinale, prévenir les épidémies de maladies évitables et sauver des vies, notamment celles des enfants. Et puis, dans l'actualité aussi, en marge de la Journée internationale des pères célébrée le 15 juin aujourd'hui, une sensibilisation sur les violences faites aux hommes par les femmes a été organisée à Kinshasa. L'activité s'est tenue hier samedi dans la commune de Massina, au siège de l'ONG Action pour la lutte contre les violences faites à l'homme. Le compte-rendu de Ben Chokuta.
La violence n'a pas de genre. C'est le message que veut faire passer ALVHF ONG à l'occasion de la journée de pères. Elle a réuni hommes et femmes pour parler d'une réalité souvent ignorée, les violences subies par les hommes au sein de foyers ou dans la société. Pour Georgine Gakumbi Manango, présidente de l'ONG, il est temps de restaurer la place de l'homme.
Nous voulons valoriser les papas. Nous voulons reconnaître que les papas, ce n'est pas n'importe qui. C'est lui le chef, c'est lui le premier pasteur de la femme et de la famille. Nous voulons aussi travailler pour l'équilibre. Si nous voulons combattre l'insécurité, combattre la pauvreté, l'homme et la femme doivent être en équilibre social.
Certains participants ont reconnu que les femmes peuvent aussi parfois franchir la ligne rouge.
Ce qu'on vient de dire, c'est la réalité qui se passe sur le terrain.
Il y a des mamans, par exemple, quand on demande quelque chose chez papa, par exemple l'argent pour aller au marché, quand papa lui dit non, je n'ai absolument rien, maintenant ça devient la bagarre.
Présent à l'événement, un représentant du ministère du genre, famille et enfants, Mike Fekir Kaka a salué l'initiative et promis de faire un plaidoyer pour que ce type d'action bénéficie d'un soutien institutionnel. Il a invité hommes et femmes à dénoncer toute forme de violence, quelle qu'en soit l'origine.
Du côté du Maniema, 123 femmes parmi lesquelles des filles mères abandonnées, stigmatisées, victimes de violences sexuelles, viennent d'être autonomisées par le centre de formation Maman Lynn. 8 mois de formation, ces femmes qui autrefois considérées comme une charge dans leur famille respective sont capables à présent de se prendre en charge grâce à ce centre de l'église méthodiste unie au Congo Est et ses partenaires. Ces femmes sont formées notamment en alphabétisation, coupe et couture, et pâtisserie. C'est un reportage de Florence Kizalunga.
La fin de cette formation est considérée comme une délivrance pour ces femmes. L'une d'elles, Osenga Marie-Joséphine, fille mère abandonnée, exprime sa joie.
En tout cas, moi, je remercie beaucoup le centre Maman Lynn. Je ne savais rien, mais arrivant d'ici, je connais parler le français, écrire, je connais préparer les beignets, les savons, je sais coudre les habits, je sais aussi préparer les soumamousses et d'autres choses. En tout cas, je vais me prendre bien en charge dans ma vie. Et ma famille aussi va en bénéficier, ce que j'avais fait ici.
Pour la directrice du centre Maman Lynn, les besoins se font encore sentir, d'où son appel aux hommes de bonne volonté. Docteur Marie-Claire Manafundu.
Une grande joie de voir ces mamans-là être capacitées sur plusieurs aspects de la vie. Nous sommes en train d'étendre toujours la main hein, parce que là, les besoins se font sentir. Alors maintenant, là, nous sentons que en dehors de cette récupération que nous faisons avec les élèves ici au centre Maman Lynn, donc il y a un besoin d'élever leur niveau selon leur attendement. Nous voulons l'appui des gens, des bienfaisants, pour qu'ils viennent nous soutenir dans ce que nous sommes en train de faire.
Signalons que le centre Maman Lynn, avec le financement de ses partenaires, a remis à chaque participante un kit de démarrage. Kindu, Florence Kizalunga, Radio Kapi.
Actualité internationale.
Nous sommes à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Samedi 14 juin, malgré une pluie battante, des milliers de personnes se sont réunies aux abords du siège de la Commission électorale indépendante pour soutenir Tidjane Thiam, figure de l'opposition écartée de la présidentielle prévue en octobre prochain. Vêtue de vert et de blanc, les couleurs du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, les manifestants ont défilé dans le calme, scandant « Justice corrompue et Titi président ». Et puis, de New York à Los Angeles, des foules de manifestants ont défilé hier dans les grandes villes des États-Unis pour protester contre la politique de Donald Trump autour du cri de ralliement « No kings » ou « Pas de roi ». La plus grande mobilisation depuis le retour du républicain au pouvoir. Au même moment, le président américain assistait à une grande parade militaire.
L'invité.
3 ans après le lancement des opérations Ngemba ou Paix en cours dans le Grand Bandundu pour traquer les rebelles Mobondo, où en sommes-nous? Pour en parler, nous recevons le capitaine Anthony Mwalushai, porte-parole de ces opérations. Il s'entretient avec Vanessa Nkongolo.
Capitaine Anthony Mwalushai, bonjour.
Bonjour madame.
3 ans après le lancement des opérations Ngemba, quel est le bilan que vous faites?
3 ans après le lancement des opérations Ngemba dans l'espace Grand Bandundu, il faut dire que les forces armées de la République démocratique du Congo ont reçu à neutraliser, bilan chiffré, 492 insurgés Mobondo, capturés 325. Nous avons 1603 qui se sont rendus auprès des forces armées de la République démocratique du Congo et aussi 1095 civils ont été sauvés par l'armée loyaliste qui était engagée dans les opérations. Il faut dire que ces civils étaient entre les mains des insurgés Mobondo et ils ont eu la vie sauve grâce au professionnalisme de l'armée républicaine. Nous avons, madame, 1075 armes récupérées calibre confondu et aussi sans compter le nombre des armes blanches, donc machettes et autres armes que l'armée congolaise a récupérées dans cette zone. Il faut dire que votre armée a récupéré plus de 60 villages qui étaient jadis occupés par ces insurgés Mobondo et aujourd'hui la population évacue librement à ses occupations. Bien que ces bilans n'aient pas encore à 100%, mais il faut dire que l'armée a travaillé au moins à 80% un bon travail qui a permis la population civile à vaquer librement à ses occupations.
Alors aujourd'hui, vous parlez de 80% des réussites des opérations Ngemba, mais les Mobondo ont changé de tactique. Aujourd'hui, on parle aussi des enlèvements et des kidnappings de la population par la milice Mobondo. Qu'est fait l'armée pour mettre fin à ces exactions?
Aujourd'hui, ils se sont divisés à factions, des petites factions, pour terroriser la population, pour commettre des exactions d'enlèvement dans des champs des paisibles populations et aussi s'attaquer aux véhicules qui quittent Kinshasa vers Bandunduville, sur la nationale numéro 17. Votre armée a pris des solutions, des stratégies qui consistent, n'est-ce pas, à renforcer l'effectif dans les villages, dans les différents points chauds de la RN17 et aussi RN1, route nationale numéro 1 qui quitte Kinshasa vers Chikapa et aussi 17 qui quitte Mongata vers Bandunduville. Nous travaillons là-dessus pour que la population soit sécurisée et aussi les usagers de ces tronçons soient vraiment sécurisés. Nous avons également déployé des checkpoints, des barrières dans plusieurs axes et villages considérés comme le village où qui enregistre les nombres élevés des attaques Mobondo, c'est-à-dire dans le territoire de Komuntu. Et aussi, il faut dire que sous le fleuve Congo, ça ne pose plus de problème parce que la force navale est déployée là-bas et fait un travail impeccable.
Alors, vous avez parlé des 1000 Mobondo qui se sont rendus. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que ces miliciens sont réinsérés dans la communauté ou bien le processus est en cours?
Ceux qui se sont rendus volontairement, les processus d'insertion sont en cours. Pour l'instant, la réserve d'armée pour la défense, RAD, s'occupe de cela. Et bien que nous sommes engagés dans les opérations militaires, des tracks, mais aussi il y a de l'autre côté la RAD qui fait son travail. Pour l'instant, ils sont cantonnés dans plusieurs villages le long de la RN17, précisément à Kinsele, à Buntele, et voire même à Etumba Nangwaka, qui sont les villages cantonnés provisoirement et avant d'être évacués à Kinshasa. Et aussi, nous sommes en train de sensibiliser les autres aussi, de quitter la brousse et de suivre le modèle de ceux qui sont déjà dans le processus de désarmement.
Capitaine Anthony Malouchai, je vous dis merci.
C'est moi qui remercie la Radio Capi.
Le porte-parole des opérations Ngemba ou Paix répondait aux questions de Vanessa Nkongolo. Par ici prend fin ce journal coordonné par Jacques-Yves Molima Aouta, supervision d'Alain Rongmouchinge, Mimi Kindo à la mise en onde. Merci d'avoir été des nôtres.